Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Nous ne laisserons pas saturer les hôpitaux, nous ne laisserons pas n'importe quel médecin opérer, être en situation de devoir trier des malades. Et si besoin était, nous prendrions d'autres mesures pour toujours protéger les Français.
L'exécutif sous pression alors que l'épidémie flambe. Trois options devraient être sur la table du Conseil de défense demain. Statu quo, renforcement des mesures, voire confinement généralisé dans les zones les plus tendues. Emmanuel Macron va devoir trancher. L'opposition le presse d'écouter davantage les médecins. C'est l'une des options envisagées, la fermeture totale des écoles. Pour l'heure, rien n'est décidé, mais les parents la redoutent, fort de l'expérience du premier confinement. Face à l'afflux de patients en Covid, les hôpitaux saturent. Une solution pour les soulager, l'oxygénation à domicile. 5000 malades en bénéficient, une pratique qui pourrait encore être étendue. L'ONU met en cause la France, accusée d'avoir tué 19 civils en bombardant un mariage au Mali en janvier. Il n'y a eu aucune bavure, répond le ministère des Armées. Dans ce journal également, l'ouverture du procès de l'homme qui avait foncé en voiture sur une pizzeria en 2017. Une jeune fille de 13 ans avait été tuée. Un an de prison ferme requis contre l'ancien PDG d'IKEA France. La société est accusée d'avoir surveillé illégalement des centaines de salariés. Et puis la lecture en recul chez les Français, c'est l'effet crise. Moins de livres plaisir, plus de livres de reportages et d'actualité. La météo, le beau temps estival va se poursuivre demain avec un soleil radieux et des températures qui vont gagner encore quelques degrés, nous dira Anissa Haddadi. La bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en nette hausse, plus 1,21% à 6088 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hameau de Boursier.com. L'interview éco dans 20 minutes, plus de femmes entrepreneurs et une économie plus verte, c'est l'ambition d'un tout nouveau programme initié par le Women's Forum. Pour en parler, Aurélien Fleureau reçoit ce soir Jamila Belladidi, directrice des achats chez Procter & Gamble. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des hôpitaux qui débordent, des écoles qui se vident et des projections alarmistes. Voilà le sombre tableau qui se dresse devant l'exécutif à la veille d'un énième conseil de défense annoncé comme décisif. Nous verrons dans un instant quelles sont les pistes envisagées par Emmanuel Macron. Ce qui est certain, c'est que la décision du chef de l'État de ne pas instaurer de mesures plus coercitives est de plus en plus contestée par une partie des médecins, mais aussi au sein de la classe politique, comme vous avez pu le constater aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Claudia Bertram.
Oui, et les critiques se multiplient contre le chef de l'État. Les oppositions de tous bords demandent à aller plus loin, notamment en ce qui concerne les écoles. Le député insoumis Éric Coquerel reproche à l'exécutif de n'avoir rien fait.
La situation sanitaire, comme prévu depuis le mois de janvier, il y a qu'Emmanuel Macron qui manifestement ne l'avait pas vu, elle est dramatique. Soit il dédouble toutes les classes, là, dans les jours à venir, soit il ferme les établissements dans les endroits où la contagion est la plus forte. Il n'y a pas d'autre solution, malheureusement.
L'insoumis qui déplore qu'aucune des propositions formulées par son groupe n'ait été entendue et retenue par l'exécutif. Même reproche de la part du député socialiste David Habib, qui fustige à la tribune une prise de décision solitaire d'Emmanuel Macron.
Il vous faut entendre les médecins, les enseignants, les élus, le Parlement. Un homme seul ne peut pas décider pour 66 millions d'habitants.
Soutien plutôt inattendu en revanche de la part de Damien Abad, le chef de file des députés LR.
Moi je vous le dis très clairement et je l'assume, mais je suis contre l'idée du confinement préventif. Et je pense que là-dessus le président de la République il a eu raison. Pour une raison très simple, le confinement préventif c'est socialement inacceptable. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut maintenir le confinement territorialisé et maintenir les écoles ouvertes.
Damien Abad qui plaide toutefois pour avancer les vacances de Pâques et qui prévient, la limite à ne pas franchir, c'est le tri des patients.
Claudia Bertram à l'Assemblée nationale pour Europe 1. Si les membres du gouvernement se gardent bien de tout pronostic en attendant les arbitrages de demain, un point fait l'unanimité, on vient de l'entendre, le tri des malades. C'est une ligne rouge absolue, a déclaré ce matin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Nous ne laisserons pas les choses en arriver là, ajoute de son côté Olivier Véran. Or, choisir entre deux patients à sauver, c'est devenu inévitable quand ce n'est pas déjà une réalité, disent les soignants. Autant d'arguments qui pourraient peser demain matin lors du Conseil de défense à l'Élysée. Emmanuel Macron a reçu ce soir la visite de Jean Castex pour évoquer la situation sanitaire. Et le président a sous les yeux des chiffres sur lesquels il va s'appuyer pour prendre d'éventuelles décisions, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, ce sont les chiffres quotidiens de Santé publique France qui sont tombés aux alentours de 19h. L'exécutif les étudie particulièrement pour observer les tendances lissées sur 5, 7 et 10 jours. L'objectif, c'est tenter de décrypter si les mesures prises il y a bientôt 2 semaines commencent à porter leurs fruits ou pas. Ces chiffres sous les yeux, Emmanuel Macron sera probablement amené à prendre de nouvelles décisions. Plusieurs options sont sur la table, le statu quo, l'aménagement des mesures existantes, la fermeture des écoles, un confinement généralisé dans les zones les plus tendues. Cette dernière option n'est pas pour l'heure la plus privilégiée. Rien n'est encore acté, précise l'Élysée ce soir, mais on est au cœur d'un rituel devenu de plus en plus lourd pour les Français, cette phase d'attente entre la publication des chiffres, le Conseil de défense de demain mercredi et les éventuelles annonces dans les heures qui suivent. Certains au sein de l'exécutif imaginent une prise de parole d'Emmanuel Macron dans les prochains jours, option qui n'est pas confirmée au sommet de l'État et qui dépendra de toute façon des mesures à annoncer. La pression politique et médicale est forte, très forte. Un conseiller me confie en fin de journée. On dit souvent qu'on est dans une semaine décisive. Cette fois, c'est pour de vrai.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Parmi les indicateurs scrutés de près par l'exécutif, il y a la situation dans les écoles. Elle se vide à vitesse grand V avec le nouveau protocole sanitaire appliqué depuis hier dans les départements semi-confinés. La règle est simple, au moindre cas, on ferme la classe. Eh bien, à Paris, l'effet a été immédiat. Le nombre de classes fermées a presque doublé en seulement 24 heures. Un casse-tête pour les proviseurs, mais aussi pour les parents. Ils redoutent désormais une fermeture généralisée comme au printemps dernier. C'est ce qu'a constaté à la sortie des écoles à Lille notre correspondant Lionel Gougelot.
Depuis une semaine, Sonia garde son fils à la maison, collège fermé pour cause de Covid. Sa fille est encore scolarisée en primaire, mais la jeune maman craint plus que tout une fermeture généralisée des établissements scolaires.
Moi perso, j'ai pas la prétention de pouvoir dispenser des cours et donner une instruction au même titre que les profs ou les maîtresses et les maîtres d'école. C'est juste impossible. Donc non, là vraiment, ça serait vraiment extrêmement problématique.
Même inquiétude pour Isabelle et ses 3 enfants.
Parce qu'ils n'ont pas de vie depuis un an.
Un écolier, un collégien et un lycéen qu'elle voit mal cloîtrée dans son appartement.
Si en plus on leur enlève l'accès à la vie sociale qu'ils ont dans l'établissement scolaire, c'est hyper compliqué moralement pour eux.
Mohamed, lui, se prépare un peu résigné à refaire l'école à la maison pour ses 2 filles. Il suffira, dit-il, de s'organiser.
Moi j'ai cet avantage-là que mes horaires peuvent être un peu flexibles, donc je suis m'arranger au travail avec mes collègues. C'est compliqué, mais après s'il faut fermer, il faut fermer.
Mais pour Jean-Yves Guéant, le président de la FCPE du Nord, une fermeture globale risque d'aggraver des situations de décrochage.
Vous avez des enseignants qui sont toujours sans matériel pour pouvoir travailler à distance, c'est les élèves qui n'ont pas de connexion. Là, moi, je ne sais pas comment ça va aller parce qu'il y aura encore des iniquités de prise en charge à distance d'un établissement à l'autre.
Avec des conséquences encore plus dommageables dans les établissements scolaires de quartiers défavorisés. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Un nouveau seuil symbolique a été franchi aujourd'hui. Plus de 5000 malades du Covid sont ce soir en réanimation. Il faut remonter au mois d'avril dernier pour retrouver pareil niveau. 9 lits de réa sur 10 sont désormais occupés partout en France. On est proche de la saturation maximale. Les transferts de malades, on le sait, sont à l'arrêt. Les familles étant majoritairement opposées, reste une solution pour soulager les services. L'oxygénation à domicile, les hôpitaux y ont de plus en plus recours. 5000 patients Covid sont actuellement pris en charge chez eux avec un respirateur et cette pratique pourrait être étendue, Victor Delande.
Oui, la piste est étudiée de près par le gouvernement et selon les professionnels de l'hospitalisation à domicile, ce sont 3 fois plus de patients qui pourraient être pris en charge chez eux. Alors la pratique est très encadrée, il faut d'abord l'accord du patient, un lien bien sûr entre l'hôpital et le médecin de ville qui surveille le malade. La plupart du temps, ça concerne des patients qui ont déjà été hospitalisés et qui ont passé la phase la plus dure de la maladie, comme l'explique Elisabeth Hubert, présidente de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile.
La phase la plus aiguë est passée. Et là, nous sommes tout à fait mobilisables, mais aussi parce qu'il y aura le reste du traitement, les anticoagulants, les corticoïdes, voire les antibiotiques, ce qui permet à un autre malade de prendre sa place, ça soulage l'hôpital.
Et dans certains cas, ça peut aussi éviter de passer par la case hôpital à des patients qui pourraient faire des formes graves. Depuis octobre dernier, le docteur Nicolas Gandry pilote un projet avec l'hôpital d'Argenteuil et les résultats sont très encourageants.
On a pris 250 patients et 90% ont passé le cap et sont restés à la maison et on a pu même les sevrer en oxygène à domicile. Il y en a 10% qui ont été réhospitalisés. On a toujours vu l'aggravation venir.
Mais certains médecins refusent d'hospitaliser à domicile des patients atteints de formes graves. Avec le Covid, disent-ils, leur état peut se dégrader trop brutalement.
Victor Delande du service Société d'Europe 1. Gérald Darmanin annonce des contrôles intensifs à partir de jeudi en prévision du week-end de Pâques que le ministre de l'Intérieur juge juge à haut risque. Objectif, éviter que les habitants des départements confinés enfreignent la règle des 10 km autour de leur domicile. Pendant ce temps-là, l'Europe se barricade face à la troisième vague. L'Italie va imposer un isolement de 5 jours aux voyageurs en provenance des pays membres de l'Union européenne, avec obligation de test avant le départ, puis nouveau test à l'issue de la quarantaine. Quant à l'Allemagne, les contrôles aux frontières terrestres vont être renforcés, notamment avec la France.
Écoutez le monde changer, Europe Soir. Le 22-22-30.
Une question à présent. La France a-t-elle commis une bavure au Mali en janvier dernier? 3 bombes ont été larguées dans le centre du pays, officiellement pour neutraliser un groupe armé terroriste. Bilan, 19 morts. Sauf que la plupart des victimes sont en fait des civils. C'est ce qu'affirme aujourd'hui un rapport de l'ONU qui met directement en cause l'armée française. Théo Manval.
Oui, armée française qui réfute depuis le début l'idée que ces 3 bombes larguées le 3 janvier sur le village de Bounti soient en fait tombées sur un mariage. C'est pourtant la conclusion très claire dès la première page de ce rapport de la mission des Nations Unies au Mali, dont les enquêteurs se sont rendus sur place. Ils ont rencontré 115 témoins individuellement, 200 autres en groupe, et leur récit confirme, dit le rapport, la tenue d'une célébration de mariage avec une centaine de civils. 19 d'entre eux sont morts, tous des hommes, ainsi que 3 membres présumés de la Katiba Serma, un groupe djihadistes actifs dans la zone, et c'est l'une des zones d'ombre qui persiste. Il y avait donc bien des hommes armés sur place aussi. À ce sujet, le rapport est même parfois contradictoire. L'armée française réfute donc ce soir toute bavure par la voix d'Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées.
Sur quoi reposent les conclusions du rapport? Sur des témoignages, certes nombreux, mais dont on ne sait pas de qui ils émanent. Les gens ne sont pas nommément cités, dont on n'a pas la retranscription et dont on ne sait pas dans quelles conditions ils ont été interrogés. Est-ce que ces gens étaient sous influence? On ne le sait pas. Nous maintenons, nous avons neutralisé des groupes armés terroristes. Nous avions un drone sur place qui a tourné des images pendant 1h30 avant la frappe.
Mais ces images qui permettraient de lever les doutes qui persistent, le ministère des Armées refuse aujourd'hui de les publier. Seule Florence Parly, la ministre, les a vues. Le ministère ne veut pas dévoiler, dit-il, d'informations stratégiques à l'ennemi.
Théo Manval, en Birmanie, la répression se poursuit malgré les condamnations de la communauté internationale et les sanctions américaines. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir demain en urgence. Retour en France avec ce procès qui a débuté aujourd'hui à Melun, aux assises de Seine-et-Marne. Procès d'un homme de 36 ans qui avait, sans raison apparente, projeté sa voiture sur la terrasse bondée d'une pizzeria près de la Ferté-sous-Jouarre. C'était en août 2019. Il avait tué une collégienne et blessé une douzaine de personnes. Un acte délibéré, mais les explications données par l'accusé ont bien du mal à convaincre les victimes, Justin Morin.
Oui, les quelques mots déclarés par l'accusé d'une voix chevrotante passent mal auprès des nombreuses victimes présentes dans la salle. Je reconnais les faits, je m'en excuse, mais je ne reconnais pas la préméditation. J'étais en plein épisode délirant, c'est arrivé inopinément. En clair, c'était un accident et ça, Sarah ne peut pas l'entendre. Elle était serveuse dans la pizzeria le soir du drame. Elle a vu la voiture accélérer pour foncer vers elle, entendu les pneus crisser, les cris des victimes.
Non, enfin, c'est pas lui la victime en fait. Voilà, c'est ça. Faut pas qu'il oublie qu'il y a quand même pas mal de victimes. Ça remonte des souvenirs pas bons, quoi. J'ai du mal. Voilà, le procès, il est sur 3 semaines et ça va être très très compliqué.
Face à l'accusé, les parents de l'adolescente décédée ce soir du 14 août 2017 l'ont aussi écouté. Ils confient leur agacement face à des excuses qu'ils considèrent de circonstances. Ils ont ensuite entendu le père et la sœur de l'accusé raconter son enfance difficile, l'absence d'une mère décédée quand il avait 2 ans, ses échecs amoureux, professionnels, son sentiment d'abandon. Puis ces bouffées délirantes liées à un sevrage brutal de cannabis 2 semaines avant les faits. Les experts psychiatres ont bien reconnu une altération de son discernement le soir des faits. C'est ce que son avocate tentera de mettre en avant tout au long de ce procès.
Justin Morin, le réquisitoire aujourd'hui au procès d'IKEA France, accusé d'avoir espionné ses salariés. 400 d'entre eux ont fait l'objet d'enquêtes privées entre 2009 et 2012. Le parquet de Versailles a requis de lourdes peines et même de la prison ferme, car pour la procureure, c'est un véritable système de surveillance qui avait été mise en place, Marion Dubreuil.
Oui, avec à sa tête Jean-Louis Bayot, l'ex-PDG de IKEA France, désigné comme le commanditaire de ces vérifications de masse par son directeur de la gestion du risque. La procureure a requis la même peine, 3 ans de prison, dont un enferme contre Jean-François Paris, le monsieur sécurité d'IKEA qui a mis en œuvre ses demandes d'antécédents auprès d'une société de sécurité privée.
C'est dur, c'est dur à prendre de toute façon. Dès le début de l'instruction, j'ai reconnu les faits, j'ai assumé mes fautes.
Et c'est bien que le tribunal replace tout le monde un petit peu devant ses responsabilités. C'est pas que j'ai pas voulu endosser un costume, c'est que j'ai dit la vérité à partir du moment où les faits ont été révélés dans la presse. Et j'ai continué à dire la vérité devant le tribunal. Après, les gens d'IKEA, moi je parle pas de mauvaise foi, je parle de lâcheté.
Pour les autres prévenus, policiers, directeurs de magasins IKEA et responsables sécurité au niveau local, la procureure a requis des peines d'avertissement, de la prison avec sursis. Quant à l'entreprise IKEA, pour envoyer un message fort à toutes les sociétés commerciales, la magistrate a demandé 2 millions d'euros d'amende.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. La production de films au plus bas depuis 10 ans en France, en raison de l'épidémie, encore et toujours. 239 longs métrages ont reçu l'année dernière l'agrément du CNC, le Centre national de la cinématographie, soit une baisse tout de même de 20%. Et pourtant, en 2020, les Français n'ont jamais autant regardé de films et de séries à la faveur des confinements. Un attrait pour l'écran qui, conjugué à l'épidémie, les a quelque peu éloignés des livres, Nicolas Carreau.
Oui, alors certes, 86% des Français ont lu au moins un livre en 2020, hors lecture professionnelle, mais en 2019, ils étaient 92%, soit 6 points de plus, à cause de la crise sanitaire en particulier. La diminution des déplacements pour cause de télétravail a joué. Les transports sont traditionnellement un lieu privilégié pour la lecture. La concurrence des plateformes de vidéo a été très forte aussi. Bonne nouvelle quand même, pour 72% des sondés, la lecture est associée à une source de plaisir. C'est 8% de plus que l'étude précédente. Les Français se déclarent aussi très attachés à leur librairie. 80% des acheteurs s'y sont procurés des livres. Le nombre de lecteurs sur format numérique reste stable. Le roman est toujours le genre le plus lu. Mais en cette période de crise, on observe une forte hausse de l'intérêt porté aux livres de reportage et d'actualité.
Nicolas Carreau, le monsieur livre d'Europe 1 que l'on retrouve chaque dimanche à 14h avec son excellente émission La Voix et Livre. En foot, deux informations importantes. Le quart de finale retour de Ligue des Champions féminines entre Lyon et le PSG a été reporté. Le match était prévu demain, mais l'UEFA a accepté de décaler la rencontre en raison de 6 cas positifs dans l'effectif lyonnais. Les Rodaniennes l'avaient emporté 1-0 à l'aller. Et puis chez les hommes, le redoutable attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, va manquer les matchs du quart de finale de Ligue des Champions contre le PSG. Le Polonais s'est blessé en sélection. Les supporters parisiens doivent être soulagés ce soir car Lewandowski, cette saison, c'est tout de même 42 buts en seulement 38 matchs. La météo, Anissa Haddadi, le beau temps va se poursuivre demain.
Oui, avec dès le début de la journée, demain, Julien, un temps très ensoleillé et doux dans le sud, au bord de la Méditerranée. Comme aujourd'hui, nous avons des entrées maritimes qui, de temps en temps, vont cacher le soleil et pourront gâcher un petit peu cette impression de beau temps. Le vent d'autan reste sensible sur le Languedoc et le Roussillon avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Côté température, toujours un peu de fraîcheur le matin avec seulement 1 degré à Charleville-Mézières, 3 à Clermont-Ferrand, 5 à Strasbourg et Montpellier, 6 degrés pour Lyon, 8 à Lorient. 9 déjà le matin pour Paris, 11 à Nice et Cherbourg et 12 à Biarritz. Et puis au meilleur de la journée, c'est stationnaire dans le sud et le nord-ouest avec 17 degrés à Cherbourg et Perpignan, 19 à Nice et Lorient, 20 à Marseille, 22 à Nîmes et Vannes. Ailleurs, les températures grimpent, 24 degrés pour Belfort et Manosque, 25 à Paris, Nantes, Lyon et Strasbourg, 27 degrés à Bordeaux et jusqu'à 28 degrés à Mont-de-Marsan.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'interview écho d'Aurélien Fleureau. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir mon cher Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street hésite ce soir sur fond de nouvelles craintes de résurgence de l'inflation aux États-Unis.
Ça baisse un petit peu. Wall Street recule de 0,31%. 33 067 points sur le Dow Jones. Le Nasdaq, moins 0,11%. Beaucoup d'hésitations. Oui, 13 045 points. Les taux d'intérêt continuent de grimper. 1,77 sur le 10 ans américain. L'emprunt à 10 ans qui se tend au plus haut depuis la fin 2019 sur des craintes de résurgence inflationniste. Le fameux plan de relance de Joe Biden sera financé par des relèvements d'impôts qui inquiètent les marchés. L'impôt sur les sociétés aux États-Unis pourrait ainsi passer de 21 à 28% selon les dernières rumeurs rapportées par le New York Post. Évidemment, ça pèse un petit peu sur la tendance. Il y a aussi le pétrole qui recule de 2% sur les $60 le baril WTI après la reprise de l'activité dans le canal de Suez. Ça donne Exxon en baisse d'1,2%. Les valeurs de technologie en baisse aussi. Apple, moins 1,2% sous les 120 dollars. Facebook, moins 1%. Amazon, moins 0,6%. IBM, moins 0,8%. Ça baisse aussi sur Microsoft, moins 1,4%. Cisco, moins 1,5%. Seul Google est stable. Et Tesla s'en sort plutôt pas mal. Plus 4%. Tesla, 635 dollars. Sur les devises, l'euro reste discuté, très faible, 1,1720 face au dollar.
La Bourse de Paris a quant à elle fortement progressé, de retour au plus haut depuis un an.
Ça remonte d'1,21%, oui, 6088 points sur le CAC 40, au plus haut depuis le début 2020. La Bourse veut se projeter au-delà de la crise sanitaire, donc on est, disons, à un horizon de 6 mois. La remontée se concentre d'ailleurs sur les grandes valeurs de la cote, comme LVMH dans le luxe, plus 3,5%, 573,50 €, l'automobile il remonte, Renault plus 3,5%, Stellantis plus 3%, Valeo plus 3% aussi, des valeurs industrielles surtout donc sensibles à la conjoncture comme Alstom qui gagne 3%, 42,71 € après un gros contrat ferroviaire de 220 millions d'euros en Inde. Puis les banques qui avaient baissé hier se redressent déjà, BNP plus 3,8%, Société Générale plus 4% et le Crédit Agricole plus 2,5% ce soir.
Exception du jour, seul le secteur pétrolier n'a pas profité du mouvement de hausse.
Logiquement dans le sillage du baril donc qui retombe, le baril de brut baisse de 2% en moyenne ce soir sur les 60 dollars, le WTI en raison donc de la reprise progressive du trafic dans le canal de Suez. Ça donne toutes les valeurs pétrolières en baisse. On a CGG, moins 1%. Technip FMC, moins 1,3%. Morel et Prom, moins 2,2%. Vallourec résiste autour des 30 euros. Les autres places financières en Europe sont bien disposées, surtout le DAX à Francfort au plus haut, en hausse d'1,3%. Bruxelles gagne 1%, Madrid 1,2%, Milan 0,9% et le CAC 40 en hausse d'1,21%. 6088 points.
Merci beaucoup Didier Hamaud de boursier.com et à demain Didier. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Aurélien Fleureau, c'est à vous.
Bonsoir Jamila Belhadidi.
Bonsoir Aurélien.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice des achats chez Procter & Gamble et puis vous êtes responsable au sein de votre entreprise de l'initiative Women for Business du Women's Forum. Et si j'ai eu envie de vous appeler ce soir, c'est pour parler du lancement d'une nouvelle initiative. Il s'agit là d'un programme d'accélération pour les femmes entrepreneurs. C'est bien ça, vous pouvez nous présenter ce nouveau programme ?
Oui, tout à fait, absolument, avec grand plaisir. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Procter & Gamble dans l'audience, j'aimerais juste un petit peu ancrer, expliquer que donc je travaille pour une entreprise de biens de grande consommation.
Hein, oui.
Et en France, ça parlera sûrement si je vous dis qu'on est présent dans 9 foyers sur 10 avec des marques comme Ariel, Pampers, Gillette, Always, Tampax et autres. Et donc, pour en revenir à votre question par rapport à l'initiative, en effet, cette initiative s'appelle Women Entrepreneurs for Good et elle vient s'inscrire en fait dans la continuité de notre partenariat avec le Women's Forum. Cela fait 3 ans qu'ensemble, on travaille sur la thématique des femmes entrepreneurs et des achats responsables en général, donc qui sont des priorités chez nous. Et nous avons une ambition commune en Europe qui est d'accélérer l'adoption de ces pratiques inclusives dans la chaîne d'approvisionnement et ce qui veut dire, en gros, amener beaucoup plus de diversité parmi nos fournisseurs. Et avec le Women's Forum, on sait très bien que c'est l'union qui fait la force. Et nous avons donc créé une coalition qui rassemble plusieurs acteurs, société civile, monde de l'entreprise, monde universitaire, avec l'intention de monter, vous savez, des actions très concrètes. Et donc, c'est ainsi que cette initiative a vu le jour, en collaboration avec le Centre d'innovation et d'entrepreneuriat d'HEC Paris. Donc, cette initiative, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va viser à donner aux entrepreneuses l'opportunité de jouer un rôle plus important dans la relance économique et encore plus précisément dans une relance économique verte.
Oui, c'est ça. C'est dans le cadre de la stratégie européenne du Green Deal, donc avec un impact environnemental. Est-ce qu'il y a des secteurs d'ailleurs auxquels vous avez pensé en priorité ? Voilà, certains secteurs qui viendraient naturellement ?
Ah oui, donc il y a plusieurs secteurs, donc par exemple la consommation d'eau, par exemple la décarbonisation en Europe, la mobilité verte. Il y a beaucoup d'aspects qui seront donc en fait considérés tout au long du programme. Et ces centaines donc de femmes entrepreneurs vont en effet travailler justement sur des défis que l'on va proposer. Et je vous donne un exemple, puisque vous étiez intéressé par un exemple. Un des thèmes concrets sera a imaginé la maison du futur qui permettrait de consommer 50 litres par jour et par personne au lieu des 500 litres actuels. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple bien concret.
Très concret, dans le quotidien, effectivement. Donc ce sera la première édition cette année. Elle pourrait concerner combien de personnes et qui pourrait postuler, pourrait faire partie de ce programme ?
Oui, alors écoutez, toutes les femmes entrepreneurs en France, en Allemagne, en Italie, et qui portent justement un projet en lien avec les objectifs du Pacte vert européen. Donc elles sont toutes bienvenues. On en sélectionnera une centaine au départ, donc à peu près. Donc l'application est déjà ouverte. Hein, on peut aller sur le site du Women's Forum et s'inscrire. Au mois de mai, donc on en rassemblera, on espère, une centaine, que l'on fera travailler donc, et que l'on amènera, je l'espère, à proposer des solutions très innovantes dans ce contexte du pacte vert européen. Mmh. Dans une deuxième phase, par la suite, on aura un jury d'experts qui sélectionnera de ces 100 équipes, 9 au total, qui auront démontré un fort potentiel et qui, elles, recevront un programme d'incubation personnalisé pendant 5 mois. D'accord ?
D'accord.
Et ce qu'on fera aussi également, on s'assurera que ces 9 entreprises seront équipées et prêtes pour demander des fonds, toujours encore dans le cadre du pacte vert européen.
Alors, c'est aussi bien pour faire évoluer son entreprise déjà existante ou c'est plutôt pour quelqu'un qui aura un projet de création dans cette démarche, notamment en lien avec le Green Deal, le pacte vert européen?
J'ai envie de dire les deux.
Oui.
Voilà. Il faut pouvoir booster et puis aider les deux. Et vraiment, il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On veut reconstruire notre économie, mais on veut aussi apprendre de toutes nos erreurs passées. Et on veut repenser l'économie de façon inclusive. Il nous faut la participation de tous, mais surtout la participation de toutes. Et on ne doit pas ignorer 50% des talents qui sont féminins. Donc, on veut s'assurer que dans le cadre de ce programme, on mette les femmes finalement au cœur de cette relance économique après la pandémie.
Et à la fin de ce programme d'accélération, d'accompagnement, quels seront les critères qui vont vous aider à prendre la décision, le choix de se dire bah voilà, telle entreprise, telle femme entrepreneur, on a envie de l'accompagner, de la pousser?
Alors, c'est une très bonne question. On y travaille en ce moment. Mais j'ai envie de dire, on va mettre en avant le caractère innovant, le caractère pertinent de la solution apportée au défi. Dans un monde idéal, on voudra vraiment accompagner encore plus loin la femme entrepreneur et vraiment mettre en pratique les solutions. Donc, voilà, je pense que ça sera à ce niveau-là que l'on mettra l'accent sur les critères que l'on retiendra.
Eh bien, très bien. Bah, parfait. Merci, Djamila Belhadidi, d'avoir évoqué cette première édition de ce programme avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la directrice des achats chez Procter & Gamble, initiative donc en lien avec le Women's Forum et puis avec HEC également, on l'a compris. Merci à vous et à demain sur Europe 1, 22h20 pour l'interview Éco.
Merci beaucoup Aurélien Fleuron. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag, émission consacrée au télétravail et à la manière dont nos bureaux à la maison se sont adaptés. Quel matériel, quelle innovation? Question que vous poserez à votre invité Adrien Pérol, le directeur général de l'enseigne Bureau Vallée. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Covid, le dilemme de Macron, titre Les Échos, avec pour illustration un graphique, celui du nombre de patients en réanimation. Plus de 5000 ce soir, du jamais vu depuis avril dernier. La fermeture des établissements scolaires sera au cœur des débats du Conseil de défense demain, écrit le journal, tandis que l'opposition fustige la lenteur des décisions. Une fois de plus, voilà le pays suspendu aux lèvres d'Emmanuel Macron, ajoute Rémi Godot dans l'Opinion. Il y a la logorée des pitis du Conseil de défense, le baratin des proches, prêts sans rire, a déclaré le président meilleur épidémiologiste de France, la pédagogie clair-obscur du Premier ministre et le défilé télévisé des mandarins devenus collapsologues. Une communication de crise qui, à l'évidence, agace l'éditorialiste de l'Opinion. Et il n'est pas le seul. Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro semble consterné. Qui viendra vendre la mère breuvage à la télévision, se demande l'éditorialiste. Véran, Castex, Macron, la France attend fébrilement en même temps qu'elle s'en désole. Un an que les Français assistent à cette triste liturgie, un an qu'il faut subir, en plus de l'épreuve quotidienne, celle de la maladie ou de la vie rétrécie, les ordonnances médiatiques. Denis Domain dans La Nouvelle République enrage lui aussi au sujet de ce va-et-vient sanitaire permanent. Nous avons appris depuis un an, écrit-il, à nous satisfaire de certitudes relatives et d'un questionnement en éternel recommencement. Ne s'étonner de rien, s'attendre à tout, même reconfiner un 1er avril, on nous aura tout fait, conclut l'éditorialiste de La Nouvelle République. Une question pour terminer, elle est à la une de Ouest-France. Où sont les sites de production des vaccins en Europe, interroge le quotidien régional. Une soixantaine d'usines participent à la production des vaccins anti-Covid sur notre continent, mais les déséquilibres géographiques sont flagrants. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique sont les plus dotés. Au final, la capacité de production constitue un fort potentiel, mais il n'est pas toujours exploité comme il faut, écrit Ouest-France. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien ?
Ça va parfaitement bien.
Tant mieux, 3921 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne.
Exactement, et nous on se retrouve tout à l'heure, d'ici une petite demi-heure, pour votre flash. À tout à l'heure Julien.